Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aus Floß. Ich will dich bloß.
Und Femme. Femme, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femme, Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons en direct dans nos studios de Ferney. Et j'aimerais juste, avant que nous commencions notre rendez-vous, notre rencontre d'aujourd'hui, refaire un appel parce que je l'ai déjà fait une fois et j'aimerais bien le refaire encore une fois. En l'occurrence, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous savez que notre radio fonctionne grâce aux gens qui trouvent qu'il est important d'occuper ou de donner un espace radiophonique à ceux qui d'habitude ne peuvent pas bénéficier de ce moyen d'expression, soit parce qu'on considère que ce qu'ils ont à dire n'est pas très important dans les médias habituels, soit qu'on ne veut pas leur donner la parole parce qu'ils ont des choses trop dérangeantes à dire. Bref, Radio Zone, elle, se met au service de tous les individus, les associations, les opprimés qui ont besoin de faire savoir ce qui se passe et qui ont un message à transmettre. Onde Femme, évidemment, fonctionne sur le même principe. En 1980, déjà, les femmes revendiquaient un espace où parler de leurs revendications, de leurs réflexions, d'évoquer leur vie, ce qu'elles avaient envie de faire. Et donc, lors de la création de Radio Zone, par toute une série de gens très motivés pour offrir enfin cet espace de parole à ceux qui ne l'ont pas, eh bien, les femmes, tout naturellement, ont pris une place importante. C'est ce qui a fait que depuis 1981, date de la création de Radio Zone, eh bien, le mercredi est la journée réservée, consacrée et animée par les femmes. En l'occurrence, eh bien, les années passent et les gens qui s'engagent au cœur de la radio font toutes sortes de choses différentes. Nous, dans l'équipe de Onde Femme, eh bien, de nombreuses femmes sont venues, sont reparties. L'équipe s'est agrandie, s'est rétrécie. Et nous avons fortement envie aujourd'hui d'accueillir de nouvelles femmes au sein de notre équipe. Alors, c'est un appel vibrant à avoir de nouvelles femmes qui s'intéressent aux médias de la radio, qui ont envie d'y participer, soit pour faire avec nous des émissions, réaliser avec nous des émissions et donner la parole aussi à d'autres femmes pour évoquer leur vie, leurs projets et de discuter des droits des femmes aujourd'hui qui, comme je l'ai entendu encore il n'y a pas très longtemps dans la bouche d'une jeune femme, ont encore beaucoup de choses sont encore à dire et à faire pour défendre les droits des femmes, même si on a l'air de dire que tout est arrivé. C'était une jeune femme de 25 ans qui me le disait. Donc c'est vrai qu'entre autres, il serait fort bien que les jeunes femmes décident de prendre la parole sur cette radio. Et c'est donc en tout particulier en leur direction que je lance cet appel, que des jeunes femmes aient envie de rejoindre notre équipe et, par exemple, reprennent le flambeau le mercredi de 17h à 18h30, une fois tous les 15 jours, et fassent une émission qui soit en alternance avec celle que je pourrais animer. Alors pour cela, une façon très simple, un numéro de téléphone, c'est le 22, puisque c'est à Genève, le 22 349 90. 41. Vous appelez et vous dites voilà, j'aimerais participer, j'aimerais bien rejoindre votre équipe. Nous ferons bien sûr des rencontres, nous discuterons, nous vous aiderons. N'importe qui peut se proposer. Nous avons tout un jour mis pour la première fois les mains sur les potards de la table de mixage de notre studio. Nous avons toutes pour la première fois pris un enregistreur et fait notre première interview. Eh bien, ça pourrait être votre première fois et nous serions très heureuses de vous accueillir dans notre équipe. Alors, je répète, un numéro de téléphone, le 22 à Genève, 349 90 41, pour appeler Onde Femme et proposer de rejoindre nos rangs. Alors aujourd'hui, dans Remue-Ménage, puisque Onde Femme, c'est plusieurs émissions, Remue-Ménage 17h-18h30, c'est entre autres à celle-là que vous pourriez participer, eh bien, je vous propose une série de portraits tirés d'une brochure absolument magnifique, parce que surtout très impressionnante et très émouvante aussi, je dois bien le dire. Une brochure réalisée par deux femmes au sein de l'UNESCO, cette branche de l'ONU qui s'occupe de la culture et de l'enseignement, de l'éducation. Et cette brochure a pour titre « Le courage incarné, portrait d'enseignants en situation difficile ». Ce sont trois femmes, qui se sont chargées de réunir les témoignages de ces enseignants. C'est Teresa Murta, c'est Ulrika Plepper-Berry et c'est Jean O'Sullivan qui, toutes les trois, soit dans le programme d'action mondiale en faveur de l'éducation pour tous ou bien dans l'international de l'éducation, ont réuni ces témoignages. Et en l'occurrence, elle remercie évidemment toutes ceux et toutes celles qui ont contribué à, avec un enthousiasme indéfectible, disent-elles, et une grande efficacité, ont contribué donc à réunir tous ces témoignages, alors soit aux enseignants eux-mêmes qui ont témoigné de leur travail, soit à divers journalistes qui ont fait le travail d'aller rencontrer des enseignants, par exemple en Haïti, au Niger, pour pouvoir ensuite qu'on transmette la parole de ces gens qui tous les jours consacrent leur vie à enseigner à des enfants dans des situations extrêmement difficiles. Alors, il y a une introduction à cette brochure. Je répète le titre, « Le courage incarné, portrait d'enseignants en situation difficile ». Le secrétaire général adjoint pour l'International de l'éducation et le sous-directeur général pour l'éducation de l'UNESCO donnent cette introduction qui, à mon avis, donne tout de suite le ton. Je les cite. Cette brochure, écrivent-ils, parle de courage. Du courage des enseignants qui, jour après jour, assurent l'instruction des enfants, malgré la pauvreté, les crises et la violence. Elle se veut également un hommage, cette brochure, à leur intégrité, à leur dévouement et à leur engagement, qui vont au-delà du simple appel du devoir. Alors qu'on aille du Brésil à la Mongolie, en passant par l'Afrique du Sud et les États-Unis, les récits de ces enseignants sont souvent émouvants et nous font prendre conscience de la réalité de leur situation. Ils sont soit confrontés à la violence à l'école ou à des élèves victimes de handicaps psychologiques ou en difficulté scolaire. Ils exercent dans des conditions de pauvreté extrême sans avoir les outils pédagogiques les plus élémentaires pour faire cela. Beaucoup voudraient bien pouvoir continuer à faire leur métier, mais leur maigre salaire les contraignent à chercher ailleurs un deuxième, voire un troisième travail qui leur permette de survivre. Les statistiques d'aujourd'hui montrent qu'un tiers des 50 millions d'enseignants dans le monde n'a aucune qualification, tandis qu'un autre tiers n'a reçu qu'une formation très inadéquate. Alors bien qu'une recommandation de l'UNESCO de 1966 concernant la condition du personnel enseignant ait fixé des normes en matière d'horaire de travail, de salaire, de formation et de possibilité d'avancement, eh bien 30 ans plus tard, force est de constater que la situation de cette profession n'a cessé de se détériorer partout dans le monde. Alors pourquoi ces personnes, qui jouent pourtant un rôle central dans l'éducation de tous, pourquoi seraient-elles laissées pour compte alors que l'on dépense des milliards de dollars pour acheter des armes ? Si nous voulons mettre le développement humain au cœur des stratégies socio-économiques, les conditions d'avancement et de travail des enseignants sont des questions sur lesquelles il convient de se pencher. Nous devons mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des enseignants et par ce biais, bien sûr, celles de nos propres enfants. Les enseignants doivent être reconnus, associés au processus de décision et on ne saurait réformer un système si les responsables de la mise en œuvre des changements ne sont pas présents au moment de la prise de décision. Ces paroles, je vous le rappelle, sont celles prononcées par le secrétaire général adjoint de l'International de l'éducation, Eli Jouen, et par le sous-directeur général pour l'éducation, donc de l'UNESCO, Colin Power. Donc, il semblerait qu'au sein de l'UNESCO, je vous rappelle donc branche de l'ONU qui se préoccupe de l'éducation et de la culture, eh bien, on considère qu'effectivement, on ferait bien mieux de consacrer quelques-uns des milliards de dollars utilisés pour acheter des armes à l'enseignement, à l'éducation, à la formation des enseignants. Bien évidemment, nous ne pouvons qu'être d'accord avec ce choix et que regretter que les mots ne deviennent pas plus souvent que ça concrets, actions directes. En l'occurrence, je vais aujourd'hui simplement me faire la parole, la porte-parole de ces hommes et de ces femmes, mais en l'occurrence pour aujourd'hui principalement de ces femmes, qui de par le monde témoignent de leurs conditions d'enseignants. Alors aujourd'hui, vous pourrez entendre le témoignage de Théa, qui est rwandaise, le témoignage de Lorna, qui vit en Afrique du Sud, le témoignage de Elisabeth, qui elle travaille aux États-Unis, à New York, celui de Fan Peng, qui elle travaille dans la République démocratique populaire du Laos. Et si nous en avons le temps, eh bien, nous rencontrerons encore Chantal Collin, qui elle travaille en France, dans la banlieue parisienne. Alors voilà, tout de suite, je vous propose de rejoindre Théa, qui elle travaille au Rwanda. Avec un plafond percé de trous à cause des balles, je suis obligée d'arrêter de faire la classe quand il pleut. Le génocide de 1994 a été un terrible choc pour nous tous, déclare Théa Unvibazi, qui travaille au Rwanda, à l'école de Kininia, le pays des mille collines, le Rwanda. Il n'est pas facile de recoller les morceaux et dans l'enseignement, c'est une tâche presque impossible, poursuit Théa. Comment peut-on attendre d'enfants qui ont perdu leurs proches, qu'ils cohabitent pacifiquement dans une classe, avec des élèves dont les parents ont pris part au génocide et dans certains cas ont même assassiné leur famille? Le génocide a coûté la vie à 2 millions de Rwandais, dont la moitié du corps enseignant. Sur les 12 institutrices qui exerçaient dans l'école de Théa, 7 ont perdu mari et enfant aux mains de la milice Hutu. Comment peut-on attendre de ces veuves qu'elles aient un sens du devoir et dispensent un enseignement utile, demande Théa. Elles sont en état de choc. Environ 80% des élèves de l'école où enseigne Théa ont perdu leurs parents. Ils sont traumatisés et éprouvent un immense sentiment de deuil. Pour les aider à faire face, les enseignants s'efforcent d'organiser des loisirs collectifs afin que les écoliers puissent jouer ensemble et se débarrasser de leurs suspicions intérieures. Mais, d'après Théa, ils auraient besoin de spécialistes pour les aider dans ce travail. La guerre n'a pas seulement détruit des vies humaines, elle s'est aussi traduite par la démolition des écoles, des hôpitaux, de centres médicaux, devenus de véritables champs de ruines. Les bâtiments à usage scolaire sont dans un état déplorable, dit Théa. Les enfants sont assis sur des planches de bois et ont du mal à être attentifs toute la journée quand ils ont marché des kilomètres pour venir à l'école. Étant donné l'absence de cantine, la plupart des enseignants et des élèves se passent de déjeuner. Et dans ces conditions, les leçons de l'après-midi passent par perte et profit puisqu'elles ne sont ni correctement enseignées ni bien assimilées. Quant aux conditions de vie, les enseignants au Rwanda vivent dans la pauvreté. Leurs salaires ne sont pas indexés sur le coût de la vie et le transport pose problème. Je dois moi-même me lever à 4h30 du matin pour être à l'école à 7h30, dit Théa. La formation constitue une difficulté majeure pour les enseignants rwandais. Sans formation en cours d'emploi, ils deviennent intellectuellement inertes, dit Théa, alors que les méthodes didactiques évoluent en permanence. Les enseignants non qualifiés sont tout simplement obligés de se débrouiller tout seuls pour rester à niveau, commente Théa. Un autre problème tient à la pénurie d'aide didactique. Il n'y a pour ainsi dire ni livre ni manuel. En sixième année, dit Théa, j'ai un livre de lecture pour 8 élèves, un manuel de français et un livre de maths. Mais Théa croit fermement que tous les Rwandais, en particulier les pouvoirs publics, devraient investir dans l'éducation et lui attribuer le même niveau de financement que la défense. Elle appelle les syndicats d'enseignants à défendre leurs droits et les associations de parents à les aider à faire valoir leurs revendications. Je suis tout à fait satisfaite d'être enseignante, car l'éducation est le fondement de tous les métiers. Tous les politiciens ont été à l'école. Et s'ils sont aujourd'hui en mesure de faire ce qu'ils font, tous les scientifiques, artistes et techniciens, ils le doivent à l'éducation de base qu'ils ont reçue.
Thank you.
Sangaré dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio 93.8. Portrait, courage incarné des enseignants en difficulté. Je me sens comme un dompteur qui va entrer dans la cage au lion. Chantal Collin, France. Dans le lycée professionnel Gustave Eiffel de banlieue parisienne où elle enseigne, Chantal Collin nous dit qu'il n'est pas rare que les élèves essayent de mettre le feu à l'école. Certains ont déjà eu des problèmes avec la justice. Une victime du racket pratiqué dans la cour de récréation est récemment arrivée à l'école armée d'un couteau à pain dans son sac. Bien que de tels incidents soient rares, avec la délinquance, le chômage des parents, le choc des cultures, 80% des élèves sont d'origine immigrée, la violence n'est jamais loin. Des droits sans responsabilité, voilà comment Chantal résume l'attitude de beaucoup d'élèves. Ils font partie, dit-elle, d'une deuxième génération de chômeurs et ils sont habitués à vivre d'allocations et à demander aux travailleurs sociaux des conseils sur la manière d'y avoir droit. Cela peut poser des problèmes. Je me souviens d'un garçon qui avait abandonné ses études pendant tout un trimestre, mais qui s'attendait tout de même à passer dans la classe supérieure, raconte Chantal, faisant remarquer que son père aussi considérait que c'était un droit. 10% seulement des parents ont visité l'école de leurs enfants. Beaucoup, estime-t-elle, ont abdiqué. Notre formation ne nous a pas préparés à ce genre de situation, fait remarquer Chantal, qui aimerait bénéficier d'une aide spécialisée pour faire face aux adolescents perturbés. Certains étudiants n'ont tout simplement jamais appris à bien se conduire. Ils quittent la classe sans demander la permission, ils entrent sans frapper, ils se promènent pendant les cours. Ce manque de savoir-vivre retentit sur le moral des enseignants, que ce soit en classe ou dans la salle des professeurs. Plus d'un enseignant a d'ailleurs déjà fait une dépression nerveuse. Avec 17 ans d'ancienneté, Chantal estime que le problème tient au manque d'estime de soi des élèves, nourri par les échecs répétés. J'essaie de comprendre comment l'apprentissage se passe et ce qui s'est passé lorsqu'il ne se produit pas. J'entreprends de leur redonner confiance en leur capacité d'apprendre. Pour faire son diagnostic, Chantal demande aux élèves, par exemple, de mémoriser une photographie jusque dans ses moindres détails. Plus tard, lorsqu'ils la décrivent de mémoire, elle leur demande comment ils ont fait. Voici ce qu'ils disent. « J'y pensais lorsque j'étais dans l'autobus. » Ou bien « Je m'en souvenais chaque fois que je passais devant une porte. » Ou bien « J'ai d'abord pensé à un détail et puis j'ai reconstitué l'ensemble. » Après avoir démontré que l'apprentissage peut prendre de nombreuses formes différentes, Chantal assure à ses élèves qu'ils peuvent appliquer les mêmes techniques à un texte, par exemple, l'un des manuels faits sur mesure qu'elle a préparé sur son ordinateur à la maison. Son plus grand plaisir, c'est de s'entendre dire « Je comprends à présent. » La vue et l'audition jouent un rôle majeur dans les méthodes de Chantal. « J'utilise beaucoup le contact visuel », admet-elle. Elle évoque affectueusement le jour où l'un de ses jeunes élèves, qui le dépassait d'une tête, lui a proposé d'être son garde du corps. « Je n'ai aucun problème de discipline », dit-elle en souriant. « Au début, je me faisais l'effet du dompteur qui va entrer dans la cage au lion. J'avais le choix entre dévorer ou être dévoré. » Ses étudiants lui disent souvent « Madame, si vous aviez des pistolets à la place des yeux, nous serions tous morts. »
Ça te met
Morane, ta vie déguille, ta vie dévie. Ce que je gagne me sert à faire vivre mon mari et à élever mes enfants. Il ne me reste rien. C'est Vanpeng Pendalit de la République démocratique populaire du Laos qui va vous parler de sa situation en tant qu'enseignante dans la République démocratique populaire Laos. Je vous rappelle que tous les portraits que je me charge de porter sur les ondes sont tirés d'une brochure qui a pour titre « Le courage incarné, portrait d'enseignants en situation difficile », une brochure publiée par l'UNESCO. Nous sommes à Salakam, en République démocratique populaire Laos, et le soleil tape dur sur les toits de l'école primaire du village. Les buffles d'eau pataugent dans les rizières proches pour se rafraîchir. À l'intérieur de l'école, une tige de bambou à la main, son chignon doucement tiré vers l'arrière et vêtu de l'uniforme réglementaire, Vanpeng Pendalit, une enseignante de 52 ans, chante les lettres de l'alphabet à haute voix avec ses élèves.